La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
La Fédération autonome de l'enseignement, un syndicat de profs, se rend en Cour suprême pour contester la terrible, la méchante, l'épouvantablement mesquine loi 21, avec l'argent, bien sûr, qui provient de la contribution de leurs membres. Et là, on peut se poser la question, est-ce que les membres de la FAE ont signé pour ça? Je ne sais pas, c'est une autre affaire. On va parler avec Guillaume Rousseau, que vous connaissez bien, professeur titulaire à la Faculté de droit à l'Université de Sherbrooke, directeur scientifique de l'Institut de recherche sur le Québec. Guillaume, salut.
Bonjour.
Là, ils disent, on veut encadrer l'utilisation de la fameuse clause non-obstant, clause dérogatoire, qui nous permet de nous retirer là de la Constitution canadienne et de la Charte des droits. Et là, ils disent parce que on veut que ça soit mieux encadré, parce que si jamais il y a un populiste qui prenait le pouvoir au Québec, il pourrait utiliser la clause non-obstant, la clause dérogatoire, pour par exemple dire « on interdit l'avortement au Québec ». Donc, si je comprends bien, Guillaume, je sais pas si tu as eu le même réflexe que moi en lisant ça, c'est que eux autres disent « on a besoin de la Constitution canadienne puis de la Charte des droits pour protéger le Québec contre lui-même ». Parce que nous autres, on a des tentations, là, tu comprends, populistes, on a des tentations de vouloir écraser les droits individuels. Donc, heureusement que le Canada là pour nous protéger contre nous-mêmes. As-tu la même réaction, Guillaume, en écoutant ça?
Oui, effectivement, je pense que c'est un peu ça la logique derrière ceux qui veulent limiter le pouvoir du Québec. Et c'était d'ailleurs la logique dans les écrits de Pierre-Éliott Trudeau, dans Cité libre, dans les années 60-70. Donc, toute sa réflexion intellectuelle qui l'a mené à proposer, puis finalement à imposer la Charte canadienne des droits, c'était exactement ça. C'est-à-dire que les Québécois étaient pas vraiment des démocrates parce que ils s'étaient pas battus pour la démocratie, ça l'avait été apporté par les Britanniques et tout. Et donc, effectivement, les Québécois étaient ni libéraux, ni démocrates par nature. Il fallait donc vraiment que le Canada anglais et ultimement la Cour suprême là, viennent limiter les pulsions des Québécois. Donc, c'est dans cette logique-là, effectivement.
Et là, c'est bizarre de voir un syndicat québécois d'enseignants qui dit ça. Il faut mieux encadrer. Est-ce que ça serait possible, mettons, là, on fait de la science-fiction, Guillaume, là, qu'un populiste anti-avortement soit élu au Québec et là qu'il utilise la clause non-obstant pour dire, ben nous autres, on se retire justement de la loi permettant l'avortement au Québec. Est-ce que ça serait considéré de façon constitutionnelle, est-ce que ce serait possible?
Ben, ce serait très peu probable, bon, pour les raisons politiques évidentes, là, parce que le Québec, selon les sondages, est plus favorable au droit à l'avortement qu'ailleurs au pays. Donc, c'est plutôt l'inverse qui serait probable. Une Cour suprême, après plusieurs années de régime de gouvernement conservateur à Ottawa, qui aurait une majorité de juges qui finirait par peut-être limiter le droit à l'avortement au nom du droit du fœtus qui pourrait être créé de toutes pièces, là, à partir de la Charte canadienne. Donc, c'est davantage l'inverse, à mon sens, qui est un risque. Et là, le Québec voudrait avoir la disposition de souveraineté parlementaire, là, qu'on appelait autrefois la clause dérogatoire, pour justement protéger le droit à l'avortement. Donc, on peut imaginer que dans ces deux scénarios qui relèvent un peu de la fiction, là, le moins improbable, c'est celui où le Québec aurait besoin de cette disposition pour protéger le droit à la liberté de choix pour les femmes.
Guillaume, t'es professeur à la faculté de droit. Mettons, moi, je suis membre de la FAE, puis je suis pour la loi 21, puis j'imagine qu'il y a beaucoup de membres de la FAE qui sont pour la loi 21. C'est une loi qui est quand même appuyée par beaucoup de Québécois. Donc, puis là, je vois que la cotisation annuelle que je verse à mon syndicat sert à contrer une loi que j'appuie, puis qui a été adoptée par un gouvernement démocratiquement élu. Est-ce que j'aurais un recours, moi, contre mon syndicat en disant, écoute, je veux pas que vous utilisiez ma cotisation pour ça?
Mais au niveau judiciaire, les quelques fois où il y a eu des contestations dans ce sens-là, ça a pas été très très fructueux. Par contre, les recours seraient plutôt politiques, c'est-à-dire que la personne pourrait saisir son syndicat local d'une résolution pour appeler la fédération des syndicats à changer sa position. Puis là, ben peut-être qu'il pourrait amener ça dans une instance nationale où là ultimement il y aurait un vote. Parce qu'il faut comprendre que à l'origine il y avait eu un sondage qui avait fait auprès des membres. Plusieurs centaines avaient répondu, puis il y avait une très forte majorité qui était pour l'interdiction du port de signes religieux. À l'époque, c'était même la Charte des valeurs, donc ça allait plus loin que la loi 21. Ensuite, il y avait eu un vote des membres en congrès, donc un nombre plus limité, là, quelques dizaines de délégués, et là, ça avait passé tout juste l'opposition à l'interdiction du port de signes religieux. Ça avait été très, très serré comme vote, et depuis ce temps-là, il y a semble-t-il pas eu d'autres consultations. Donc là, ça serait peut-être le temps, effectivement, de la base de se mobiliser là, dans les syndicats locaux pour que cesse oui. Ce recours.
Ben oui, et la clause nonobstant, ça serait bien de raviver la mémoire de ces gens-là. C'est pas rien que le Québec qui l'utilise là, au Canada.
Non, par contre, le Québec l'utilise plus souvent, historiquement. Là, si on regarde les 40 dernières années, le Québec l'utilise plus souvent. Mais effectivement, les autres provinces, ça arrive de temps en temps. C'est pour ça que ce serait surprenant que la Cour suprême vienne l'encadrer là, très fortement, comme le suggère la Fédération autonome de l'enseignement.
Mais ça fait partie, je veux dire, c'est pas illégal de faire ça. Là, ça fait partie de la nouvelle Constitution de 82. D'ailleurs, c'était, j'imagine, une des conditions du Québec, là. De pouvoir avoir la clause nonobstant.
Absolument. En fait, au début des négociations qui ont finalement mené au rapatriement de la Constitution, à l'ajout de la Charte canadienne, le Québec avait suggéré cette idée d'une disposition de souveraineté parlementaire. Ensuite, ça n'avait pas été priorisé dans les négociations. Finalement, le Québec a refusé le projet de charte du fédéral et des autres provinces, mais ça a été ramené. Donc, l'idée du Québec a été ramenée par des provinces de l'Ouest. Donc un petit peu du Québec là-dedans. Puis ensuite, ça a été utilisé beaucoup plus par le Québec que par les autres provinces. Puis l'idée, c'est tout simplement de dire que oui, les tribunaux peuvent se prononcer sur les questions de droits fondamentaux, mais à la fin, il faut qu'il y ait un des deux, soit que c'est la Cour suprême ou soit que c'est l'Assemblée nationale qui décide. Et l'idée de la disposition de souveraineté parlementaire, c'est de dire, dans certains cas, donc pour les articles 2, 7 à 15, donc notamment les questions de liberté de religion, droit à l'égalité, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et dans d'autres cas, les articles 3 à 6, 16 à 23, donc des questions de droit de vote, droit linguistique, là, c'est la Cour suprême qui a le dernier mot. Donc, c'est vraiment un équilibre entre la souveraineté du Parlement britannique, la suprématie judiciaire à l'américaine. On a trouvé une espèce d'équilibre. Et là, la Fédération autonome de l'enseignement veut faire voler ça en éclats, faire en sorte que même sur les articles 2, 7 à 15, où c'est vraiment l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, on veut que la Cour suprême vienne limiter le pouvoir de l'Assemblée nationale.
C'est incroyable.
Et c'est particulièrement dangereux parce que c'est une disposition qui vise à limiter le pouvoir judiciaire. Donc là, on demande au pouvoir judiciaire de repousser les limites à son propre pouvoir, ce qui est évidemment pas l'idéal en démocratie quand il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir, comme disait Montesquieu.
Incroyable, oui, c'est incroyable. C'est quand même un syndicat québécois qui espère qu'à un moment donné, la Cour suprême va avoir plus de pouvoir sur le Québec que notre Assemblée nationale et nos cours.
Effectivement.
Nos cours
ensuite, si c'est vrai, si la disposition est dite encadrée, donc très, très limitée quand l'usage que peut en faire l'Assemblée nationale, ben ça sera vrai pour la laïcité. D'ailleurs, c'est intéressant que si la disposition de souveraineté parlementaire saute, ça va sauter pour l'interdiction du port de signes religieux, mais ça sauterait aussi pour le visage couvert, l'interdiction du visage couvert pour les profs. Donc, est-ce que la FAE est en train de nous dire qu'ils souhaitent que les enseignants puissent enseigner à visage couvert? C'est quand même pas un détail. Et si ça saute pour l'interdiction du port de signes religieux, l'interdiction du visage couvert, ben ça saute aussi pour la langue française, parce que la disposition de souveraineté parlementaire sert aussi à protéger la loi 101. Donc c'est déjà dans les tribunaux, donc on le sait que c'est contesté. Donc là, si la disposition de souveraineté parlementaire devient à être encadrée, en fait très limitée dans son usage, ben ça c'est dangereux non seulement pour la laïcité, mais aussi pour la protection.
Ben, c'est ça, hein, c'est une boîte de Pandore qu'ils sont en train d'ouvrir, puis on dirait qu'ils ne voient pas tous les impacts et toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Et en terminant, Guillaume Rousseau, j'imagine là que des droits fondamentaux qu'on ne peut pas... j'imagine il y a certaines dispositions de la Constitution puis de la Charte des droits dont tu ne peux pas te retirer parce qu'on trouve, on juge au Québec que c'est trop fondamental comme droit qu'aucune province a le droit de dire, ben là-dessus, moi, je ne l'appliquerai pas dans ma province. J'imagine qu'il y a des droits qui sont protégés de l'utilisation de la clause nonobstant.
Ouais, effectivement, le meilleur exemple, c'est probablement le droit de vote, parce que là, on se dit, si le gouvernement qui se fait élire commence à jouer sur le droit de vote, ben pour se faire réélire, par exemple, là, ça devient assez dangereux pour la démocratie. Donc, il n'y a pas de disposition de souveraineté parlementaire là dans la Charte canadienne pour ce qui est du droit de vote, et aussi pour les droits linguistiques. Et là, c'est à mon avis, c'est plus problématique parce que ça vient limiter la possibilité pour le Québec de protéger le français, notamment comme langue d'enseignement. Puis ça, ben c'est vraiment un choix de Trudeau. Là. Ça n'a rien à voir avec des traités internationaux et les conceptions universelles des droits de l'homme. Mais c'est vraiment Trudeau qui voulait imposer sa vision des droits linguistiques et c'est ce qu'il a fait avec la Charte canadienne.
Donc, la loi 21, à un moment donné, va se retrouver devant la Cour suprême. Et là, la Cour suprême va devoir juger est-ce que cette loi-là est conforme à toutes les dispositions de la Constitution puis de la clause nonobstant, ou alors elle s'attaque à des droits qui sont tellement fondamentaux que le Québec peut même pas utiliser la clause nonobstant pour s'en sortir, c'est ça?
Ben là, la Cour suprême va devoir se prononcer à savoir si elle accepte, si elle donne la permission d'en appeler. Donc, elle n'est pas obligée. C'est pas un appel qu'on appelle de plein droit. Donc, il y a une permission de la part de notamment la FAE. Là, il y aura une opposition. D'autres parties vont s'opposer. La Cour suprême aura à trancher probablement d'ici la fin de l'été. Et ensuite, elle devra se pencher si elle entend, par exemple, la FAE sur la disposition de souveraineté parlementaire. Et là, si elle choisit de l'encadrer ou de la faire sauter ou quoi, ben là, elle pourrait se prononcer sur la question de la liberté de religion, droit à l'égalité ou pas. Si elle respecte la souveraineté parlementaire, ben là, à ce moment-là, il lui restera les droits qui sont pas couverts par cette disposition-là, dont le droit de vote. Fait que c'est pour ça, par exemple, la Cour d'appel a dit l'interdiction du visage couvert pour les députés. Ça, c'est contraire au droit de se présenter aux élections. Donc là, la Cour suprême pourrait confirmer ça ou infirmer ça, parce que c'est quand même très, très large comme interprétation là, du droit d'éligibilité.
Et toi, ton opinion, mettons une femme voilée, une enseignante voilée qui dit, ben à cause de la loi 21, je ne peux pas exercer son métier. Toi, ton opinion, est-ce que c'est la loi 21 qui l'empêche d'exercer son métier ou c'est sa conception de sa religion qui l'empêche?
Non, évidemment, on sait qu'il y en a, puis c'est dans la preuve au dossier, là, qu'il y a des femmes qui, dans leur vie de tous les jours dans l'espace public, choisissent de porter un signe religieux. Puis là, ben, dans le cadre de leur fonction d'enseignante, on leur demande de le retirer. Elles le retirent, elles enseignent. Donc, il y a des cas comme ça, là, c'est documenté, donc c'est tout à fait possible. Qu'il y en ait certaines qui décident de prioriser leur pratique religieuse très, très rigoriste plutôt que d'avoir un emploi, ben à ce moment-là, elles peuvent aller dans le secteur privé, enseigner. Donc, la loi est vraiment faite pour protéger la liberté de conscience des élèves en ayant des enseignants qui n'ont pas de signe religieux, mais en même temps, il y a des espaces de liberté pour les enseignants puis d'autres personnes qui ont des postes avec pouvoir de coercition.
Ben, merci beaucoup pour ces éclaircissements-là. Guillaume Rousseau, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et directeur scientifique de l'Institut de recherche sur le Québec. Merci, bonne journée, Guillaume.
Salut. Merci à vous.